Un autre caractère commun, c'est finalement l'attente du Messie.
Oui.
Et est-ce que dans l'image que chaque groupe, même que chaque juif personnellement se fait de ce Messie, est-ce qu'il y a des différences qui peuvent être presque fondamentales et donc conduire, c'est peut-être d'ailleurs, je vais conduire à un nouveau schisme comme on pourrait considérer
Oui, alors. En fait, l'idée, l'attente du Messie est aussi liée à l'attente du rassemblement des exilés, parce que ça serait une fonction du Messie, et aussi une paix universelle. Donc c'est pour ça qu'on, dans le judaïsme, on met le Messie à la fin de l'histoire. Voilà. Parce que ça va de pair, le rassemblement des exilés et la fraternité universelle. Qui, en fait, le Messie serait là pour renvoyer à la reconnaissance du monothéisme universel, sans conversion au judaïsme. Aussi, hein, pas de conversion au judaïsme, mais une fraternité universelle. Alors, dans le mouvement libéral, il y a une pensée qui s'élabore où l'image du Messie disparaît derrière l'époque messianique. Voilà. Donc, c'est dans certaines prières, le Kaddish qui ressemble un petit peu à Notre Père, où on dit que ton règne vienne. On a exactement, parce que le début du Notre Père, ça ressemble à ce qu'on appelle le Kaddish. Et on dit que ton nom soit sanctifié, c'est pareil, sauf que dans la prière juive, on dit que son nom soit sanctifié, pas que ton nom soit sanctifié. Et on dit que son règne vienne, que son règne règne, en fait, on dit en araméen. Et dans les milieux libéraux, mais nous on ne le dit pas ici, mais dans certains milieux libéraux, au lieu de dire que vienne ton Messie, on dit que vienne ta délivrance. Parce qu'on met plus l'accent sur la délivrance plutôt que sur la personnalité. Voilà. Ça ferait, alors, le schisme entre le judaïsme et le christianisme s'est opéré à cause de la figure de Jésus, non pas en tant que le Jésus juif, qui, du point de vue du judaïsme, est un rabbi qui enseigne la Torah, il faudrait travailler les évangiles pour le voir, mais parce que les disciples et les pagano-chrétiens ont fait de Jésus. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une rupture. Et il y a eu la remise en cause de la pratique religieuse et de la foi d'Israël sur la question de la Trinité par rapport au monothéisme absolu qu'on retrouve uniquement dans le judaïsme et dans l'islam, où Dieu, c'est Dieu, il n'y a pas de Trinité. Donc non, il n'y a pas vraiment de schisme. Le schisme, si vous voulez, il s'opère d'un point de vue sociologique entre le monde religieux et le monde laïque. Ça, c'est vraiment un schisme, mais en même temps, ça appartient au peuple d'Israël, et le schisme religieux entre les plus libéraux et les plus orthodoxes. Mais ça n'a pas créé une nouvelle religion. Les seuls qui pourraient être considérés extérieurs au peuple juif, peut-être, et encore, il faudrait voir, ce sont des juifs messianiques. C'est très spécifique, ce sont des juifs évangéliques qui disent qu'ils sont juifs, mais en même temps qu'ils reconnaissent Jésus, donc ils pourraient s'apparenter aux premiers chrétiens qui étaient des judéo-chrétiens, c'était la communauté de Jacques, dont on dit le frère du Seigneur, qui a disparu avec la destruction du temple. Mais il faut savoir que dans le judaïsme, on est plus pour une praxis que pour une théologie. Donc c'est-à-dire, c'est pas tellement la pensée qui compte. On peut croire à une chose et son contraire. Il y a même des approches radicalement différentes. On se retrouve, dans le Talmud, on raconte, il y avait deux rabbins qui discutaient, et l'un prouve que Dieu existe, l'autre il prouve que Dieu n'existe pas. Et à la fin, il dit, c'est l'heure de faire la prière, ils font la prière ensemble. Il dit, mais alors, on est déjà prouvé que Dieu n'existait pas. Mais ça n'a rien à voir, ça, maintenant c'est l'heure de la prière. Parce que j'ai trouvé des arguments, mais peut-être, si toi, vous comprenez. Donc c'est pas tellement sur les conceptions, et c'est pourquoi les conceptions et les interprétations sont gardées. On n'est pas dans un monolithisme de la pensée, mais dans un éclatement de la pensée. On garde toutes les pensées, toutes les approches, et après, on trouve celle qui correspond le plus à notre approche. Allez-y, oui.
J'ai juste une question. Bon, on voit dans votre intervention que la France occupe une situation singulière en matière d'organisation du judaïsme avec la présence de ce consistoire. Alors, est-ce que c'est pour le dialogue qui doit exister ou pas exister entre les divers judaïsmes que vous avez présentés, est-ce que c'est une chance ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose de difficile? Autrement dit, dans les autres pays, en Europe ou aux États-Unis, et même peut-être en Israël, il n'existe pas de consistoire. Est-ce que les divers judaïsmes coexistent, se pratiquent, discutent ou pas?
Voilà. Alors, en fait, la chance en France, c'est pas le consistoire, c'est la laïcité. C'est le fait que l'État garantisse la liberté de culte, à condition que ce culte ne remette pas en cause la paix sociale, le principe, voilà. Donc, c'est la laïcité qui va permettre, un, la liberté de culte, et deux, la possibilité de dialoguer entre les religions. Ah, bien sûr, il faut une bonne volonté pour ça. Et la bonne volonté, je trouve qu'elle existe, parce qu'elle a été d'abord construite, après-guerre, par le Concile Vatican II, dans l'Église catholique. Je dis bien l'Église catholique et pas le christianisme. Je ne parle pas des protestants ou des orthodoxes ou des évangélistes. Hein. L'Église catholique a inauguré, suite à une rencontre historique entre l'historien Jules Isaac, qui était l'auteur de Isaac et Malé, les livres de l'histoire, voilà. C'était Jules Isaac, qui avait perdu sa femme et sa fille à Auschwitz, et qui a interpellé, qui était historien, mais qui n'était pas un juif religieux, un juif mais d'identité, et qui a interpellé l'Église à travers deux livres, l'enseignement du mépris. Il pose la question au monde chrétien européen, comment est-ce possible qu'en Europe, qui était la terre chrétienne depuis Constantin, il ait pu avoir la Shoah, qui était contraire à l'esprit de l'enseignement de Jésus. Voilà. Et il a écrit « Jésus et Israël ». Voilà. Et il a été voir le pape Jean XXIII. Et lorsqu'il y a eu cette rencontre entre le pape et Jules Isaac, donc le pape lui a accordé l'audience, et lui a dit, on va initier un nouveau concile, qu'on appelle le concile Vatican II. Vous regarderez aussi, il y a des films, il y a beaucoup de choses là-dessus. Vatican II, où finalement, l'Église catholique va s'ouvrir sur le dialogue avec les autres religions, mais on s'aperçoit que ce qui est écrit dans le Concile Vatican II, tout particulièrement par rapport au judaïsme, c'est en quelque sorte une remise en cause de ce qui avait été annoncé ou enseigné plutôt par les pères de l'Église pendant 2000 ans pratiquement, à savoir que le christianisme était le nouvel Israël, qu'on appelle le Verus Israël. Donc pendant 2000 ans, 1900 ans, on a enseigné que en fait le peuple d'Israël était déchu, et que le nouvel Israël, c'est le peuple chrétien, et il y a une remise en cause de ça. Donc ça veut dire même une remise en cause des enseignements des pères de l'Église, ce qui n'est pas une petite chose, c'est vraiment un germanteau tout à fait remarquable. Et à partir de là, donc dans les années 63-65, il y a donc avec Jean-Paul VI, parce que Jean-Paul est mort entre-temps, et bien, Paul VI, et à ce moment-là, il y a les rencontres entre juifs et chrétiens, à travers la création des amitiés judo-chrétiennes, avec la guerre de 1967, ce qu'on appelle la guerre des six jours, il y a ensuite l'initiative, cette fois-ci, juif, chrétien et musulman, la création de l'association qu'on appelle la Fraternité d'Abraham, avec la mosquée de Paris, et le révérend père Riquet, et André Chouraki, voilà, des trois religions. Et là, on est dans le dialogue. Donc on pourrait dire, à partir des années 60-70, il y a l'initiation d'un dialogue. Donc je dis, un, la laïcité, deux, la volonté de dialoguer. Les plus orthodoxes, les plus extrémistes des différentes religions ne vont pas dialoguer, ni juifs, ni chrétiens, ni musulmans. Pourquoi ? À cause de la question de la vérité. Parce que si j'ai la vérité, l'autre est dans le mensonge. Vous voyez, c'est ça l'extrémisme. Maintenant, ceux qui veulent dialoguer, c'est en disant, j'ai une part de vérité, c'est ma foi, mais je veux dialoguer avec toi parce que au-dessus de la vérité, il y a la paix. Il y a la paix sociale. Et si nous pouvons contribuer par nos échanges à nous connaître les uns les autres, parce que souvent ce qui entraîne le rejet de l'autre, c'est parce qu'on ne connaît pas. Donc si on pouvait connaître, en hébreu, connaître et aimer, c'est le même terme qu'on utilise. Donc, si on pouvait se connaître et apprendre les uns des autres, eh bien, on participerait de la paix sociale. Vous voyez ? Donc, on dirait que c'est une chance. Alors, ça se fait aussi dans d'autres pays, ça se fait aux États-Unis, ça se fait aussi en Israël, mais c'est moins évident en Israël, à cause peut-être des tensions, mais ça se fait quand même. Il y a des rencontres avec des rabbins, des Palestiniens aussi. Bon, c'est moins. Alors, il faut savoir aussi que il y a des choix médiatiques où on va mettre plus en évidence des conflits que de mettre en évidence. Il faut quand même savoir qu'il y a des démarches, des rencontres, des dialogues qui se font, mais ce n'est pas médiatisé, sauf si vous êtes abonné à tel ou tel site et vous verrez qu'il y a des choses quand même qui essaient de se faire. Voilà un petit peu. Oui, madame.
J'ai trois petites questions. La première, c'est combien il y a en gros de personnes en France dans les quatre catégories que vous avez données là.
Oui.
La deuxième chose, c'est est-ce que quand on est rabbin, on est bien payé ou est-ce qu'il y a, comme les prêtres, il y a un peu de pauvreté. Et la troisième question, c'est j'ai pas très bien compris pourquoi le consistoire a été créé en France. Est-ce que c'était un effet de nombre parce qu'il y avait beaucoup de juifs ou est-ce qu'il y a d'autres raisons, une raison.
Okay. Alors, le pourcentage. Alors, on considère que. Alors, en France, on dit le chiffre 500 000 juifs. On était 600 000 il y a peut-être une vingtaine d'années, là il y a un petit 500 000. La moitié se trouve à Paris, région parisienne. Et sur les 500 000, on considère qu'il y a maximum 30% qui ont un lien avec la communauté structurée. C'est pas beaucoup. Il reste 70 personnes de juifs qui se revendiquent juifs, mais qui ne sont pas forcément affiliés à des instances religieuses, quelles qu'elles soient. Voilà. Maintenant, dans ces 30%, je ne peux pas vous dire le nombre, le pourcentage des libéraux et des... voilà. C'est pas parce que c'est visible que c'est plus important. Voyez.
Bon. On nous a dit 5,95.
On vous a dit 5,95.
Ouais. Ça fait peu.
Ça fait peu.
Attends, 5,
pour le juif,
5% libéraux.
Non, ça un consistorial.
Oui, c'est un consistorial, voilà. Non,
ouais, c'est ça.
Selon le consistoire.
C'est comme pour les partis politiques.
Selon les organisateurs.
La police. Non, mais on peut avoir un chef différent et trier ensemble après.
Oui, non, mais je peux pas vous. Moi, je vous dis, je sais pas, parce qu'il n'y a pas d'études vraiment. Alors, il y a quelques sociologues comme Dominique Schnapper, si ça vous dit, voilà, qui est un peu spécialiste de ce travail. Voilà, il faut aller dans des sites ou des recherches spécialisées, mais voilà, pour avoir. Mais c'est difficile parce que, a priori, on n'a pas le droit de faire ce travail en France, de dire de quelle religion on est. Donc, il faut un sociologue qui fasse le travail. Bon. Alors, les rabbins sont-ils bien payés? Certains, c'est pas un métier pour un juif. ça dépend de la communauté, en fait. Hein. Un rabbin est payé au prorata de la communauté. Il y a des communautés qui sont plus importantes que d'autres, et donc il y a un meilleur salaire. Le rabbin est payé aussi en fonction du nombre d'enfants qu'il a. Voilà. Et parce qu'il est marié, des enfants. Mais bon... Peut-être le grand rabbin de France et les grands rabbins régionaux, ça reste des salaires tout à fait corrects, peut-être au-dessus de... On a un statut de cadre, voilà.
Et le rabbin n'est que rabbin, il n'a pas un autre métier.
Il peut avoir d'autres fonctions, justement. Voilà, moi, j'ai connu rabbin qui était dans une petite communauté, mais bon, c'était pas suffisant. Il était dans la banlieue lyonnaise. Lui, il était comptable. Et le samedi, il faisait les offices, voilà, pour être... parce qu'il n'est pas nécessaire d'être rabbin pour diriger un office. Quiconque est compétent dans la prière, qui sait lire en hébreu, qui sait chanter les prières, voilà, il peut le faire, vous voyez.
Et rabbin, c'est... ici que les prêtres ne font pas vœu pour voter. Les moines, oui. Pas les prêtres. Les prêtres séculiers, les prêtres des paroisses, sont payés... par le diocèse, par la partition, est mal payé généralement, leur famille les aide et tout, mais ils ne font pas de vœux pour voter. Ils ont même le droit d'avoir un petit patrimoine, une voiture ou quelque chose, je ne sais rien, mais les moines font vœux pour voter. Et je voulais ajouter aussi, pour qu'on le dise bien, qu'en Alsace-Lorraine, avec le concordat, les rabbins, les prêtres et les pasteurs sont payés par l'État.
Par l'État.
Oui, en Alsace-Moselle.
Le ministère
de l'Alsace-Moselle. En Alsace-Moselle, j'en conviens.
C'est le ministère de l'Intérieur qui a gardé le système du le ministère des cultes.
Voilà.
Ministère des cultes. Voilà, donc le rabbin, ben, en général, donc, comme il a une famille, voilà, il, au moins il peut subvenir aux besoins. Des fois, la communauté aide pour payer le loyer, etc., ou des frais de déplacement. Ou alors, c'est avec la, les familles. Voilà, hein, voilà, c'est un peu le sacerdoce, ou des fois, c'est le denier qui circule. Voilà. Alors, consistoire. Le consistoire. Alors, pourquoi le consistoire ? Ben, il se trouve que la Révolution française, enfin, la Révolution est partie de la France. Et que la première communauté juive qui a été touchée par l'effet révolution, hein, bah, ça a été la communauté juive de France. C'est pour ça que ça a commencé en France. Et après, ça a fait boule de neige, parce que quand Napoléon ensuite s'est déplacé et qu'il a été faire ses conquêtes, je vous ai dit, il était en Italie, et il a dit, on casse la porte, la grande porte du ghetto, ça y est, maintenant on apporte la République. Et donc, ça s'est développé, mais c'est parce que ça a commencé en France, en fait. Alors, je dirais même plus, je dirais que les premiers grands commentateurs du Talmud et de la Bible sont français aussi. Il y a un rabbin qui s'appelle Rashi. Si un jour vous allez à Troyes, en Champagne, ça fait partie du circuit touristique. Rashi, dont le nom ça veut dire Rabbi Salomon, fils d'Isaac, donc les initiales ça veut dire Rashi, eh bien, fait partie du circuit. Voilà, quand vous allez à Troyes, vous, devant la mairie, vous avez une grande boule dédiée à Rashi. Vous avez le vieux quartier juif de Troyes. Et ça a été toute l'école d'interprétation de la Bible, qui a même eu des influences sur des penseurs et des exégètes chrétiens, jusqu'à l'expulsion, enfin jusqu'au brûlement du Talmud avec Saint-Louis. Voilà, voilà pourquoi c'était la France. Hein, voilà. Parce que ça a commencé en France.
On a le temps
pour... Oui, enfin, ouais. Moi j'ai le temps, mais...
Parce que du coup, la question qui vous a été posée, c'est est-ce que vous pensez qu'en gros ça communique bien entre différentes mouvances du judaïsme ? Et moi, j'aimerais en fait vous entendre sur les autres réformés des autres, des autres religions. En gros, comment ça match avec les réformés du culte juif ? Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a un dialogue ? Est-ce que vous battez ? Prenez le dialogue interreligieux,
oui.
Donc orthodoxe, pas orthodoxe, mais du coup les réformés chez les musulmans, chez les chrétiens,
comment ça existe
et est-ce que ça vit ici en France?
Oui, d'abord...
On ne le voit pas, moi je ne le vois pas.
Oui, on ne le voit pas trop, mais ça existe. J'ai écrit par exemple un livre avec Galette Bencher, Islam et judaïsme en dialogue.
Qui est un de vos intervenants.
Voilà. Oui. Il y a également... j'ai souvent participé, par exemple, aux éditions de l'atelier... À l'écriture de livres, ce qu'en disent leurs religions. Ceux qui participent du dialogue interreligieux, d'une certaine manière, sont des réformés. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont pour une ouverture et pour un dialogue. Alors, c'est pas médiatisé, c'est pas des mouvements, mais en Bretagne, on allait à l'époque à Saint-Jacques-de-la-Mer, ou bien il y a les Amitiés de Chrétiennes, la Fraternité d'Abraham. Il y a toujours des programmes qui sont organisés et je suis souvent invité à droite, à gauche, à parler avec un prêtre, avec un imam, ou avec un théologien, ou simplement un musulman ou un chrétien, à parler de tel ou tel thème. Donc, c'est aussi le fait d'être invité, par exemple, dans des instituts d'études de commerce, par exemple, où on considère que les élèves doivent avoir une formation aussi des religions, parce que en comprenant les religions, on comprend les modes de pensée et comment on fait du commerce en tenant compte de, voilà, on commerce avec des Chinois ou avec des telle ou telle culture, c'est différent.
Je me permets de compléter, mais aux universités d'été du MEDEF, cette année, il y avait une table ronde sur la foi, l'évolution de la foi et de la religion, perspective dans 20 ans, et donc il y avait un rabbin, un prêtre, un imam, qui était présent, qui était invité, qui dialoguait.
C'était passionnant.
C'était Delphine Horviller, d'ailleurs.
Ah oui, Delphine. Il y a eu des émissions, je ne sais pas si ça se fait encore, mais sur la chaîne parlementaire, où j'avais participé à justement comment ça s'appelait, La tête dans les cieux, je crois. Puis justement, il y avait à chaque fois une thématique, il y avait un représentant des différentes religions qui intervenait.
Donc, juste ma question, excusez-moi, monsieur le rabbin, mais du coup, en fait, je vais être très, très honnête, très franche avec vous. J'ai le sentiment, alors peut-être je me trompe, mais je n'ai pas l'impression qu'en tout cas à Paris, en région de France, le pouvoir central qui est centralisé a des relations, j'allais dire, avec un consistoire orthodoxe, a des relations avec un CFCM, pas orthodoxe, mais en tout cas traditionnel, et a une relation avec le culte catholique, voilà, la conférence des évêques.
Exactement.
Oui, on est quand même sur, sur une vision, j'allais dire, de la religion ancienne, enfin ancienne.
C'est pas qu'elle est structurée, c'était qu'elle est structurée. Oui, le pouvoir politique a laissé un moment des relations avec la structuration du groupe religieux. La structuration, c'est celle du consistoire.
Oui, vous comprenez, le consistoire a toujours été l'interlocuteur pour le judaïsme, a toujours été l'interlocuteur par rapport au pouvoir. Les représentants, voilà.
Il a été fait pour ça.
Si demain le judaïsme libéral.
Comment on évolue, c'est ça?
Si le judaïsme libéral. Se développe et qui représente un pouvoir en nombre d'adhérents, par exemple, eh bien,
Et Emmanuel Macron viendra faire un petit topo à Copernic.
Voilà, par exemple.
Le CRIF aussi fait.
Alors, il faut savoir qu'il y a différentes structures. Le consistoire, c'est la structure, c'est la gestion du culte. Vous avez le fonds social, qui est la gestion du social. Et vous avez le CRIF, qui est la gestion politique. Voilà, qui interviennent, surtout des questions d'antisémitisme, par exemple. Voilà. Et donc, en fonction de la finalité de cette institution, les pouvoirs publics vont s'adresser à tel ou tel organisme. Mais disons que depuis Napoléon, et majoritairement, le consistoire reste majoritaire, et le grand rabbin de France, même s'il est de tendance orthodoxe, il reste quand même le représentant. Où il se veut le représentant, en tout cas, du judaïsme.
Est-ce que les réformés sont représentés au sein du CRIF?
Oui, oui, notre président ici est représenté au sein du CRIF, tout à fait.
Il y a des laïcs également.
Oui, c'est ça. Le CRIF, ça veut dire le Conseil représentatif des institutions juives. Ça peut être les mouvements de jeunesse, ça peut être le cercle des bridgeurs du dimanche. Voilà. Mais évidemment, c'est au prorata du nombre de personnes. Donc,
mais justement, au sein du consistoire, vous êtes représenté? Vous n'êtes pas
représenté? Ah non, on n'est pas représenté.
Voilà,
non.
Est-ce que c'est une modalité d'élection? Est-ce que c'est une modalité de désignation? Et par qui? Parce que vous disiez tout à l'heure, si on est plus important, on finira par.
Ah bah oui, c'est la loi du nombre. C'est la loi du nombre, si vous voulez.
Mais comment est-ce qu'on sait si vous êtes plus important ou pas? Il n'y a pas d'élection, il n'y a rien. Donc, qui vous désigne au consistoire?
C'est-à-dire. Non, personne. C'est-à-dire que, par exemple, le grand rabbin de France. Alors, le grand rabbin de France est nommé par les grands rabbins régionaux et par des présidents de communautés qui, eux, sont choisis comme des présidents d'associations. Donc ces présidents, plus ces grands rabbins régionaux, qui eux-mêmes sont nommés par des conseils, par leur père, etc., vont élire le grand rabbin de France. Mais le grand rabbin de France est élu par, finalement, l'institution du consistoire, donc ceux qui sont à jour de leur cotisation, tout simplement. Comme c'est voilà pour
votre synagogue, elle est consistoriale?
Non, elle n'est pas consistoriale, puisque justement, elle est libérale, elle est indépendante. Comme les orthodoxes, les Lubavitch, ils ont leur propre institution. Voyez. Alors, il est possible, par exemple, que des juifs qui fréquentent notre communauté soient adhérents du consistoire parce qu'ils sont attachés à la communauté de la Victoire, parce que la Victoire était un petit peu jumeau ou jumelle du mouvement libéral. C'est la même liturgie, etc. Et c'est israélite. Même si aujourd'hui, les rabbins que vous avez vus sont plutôt de tendance orthodoxe, mais pendant longtemps, c'était un judaïsme consistorial, mais plutôt tendance libérale. Je vous dis, à partir de 70, c'est passé de l'autre côté.
Les Lubavitch ne sont pas un consistoire.
Ah non, à titre individuel, ils peuvent adhérer, mais non, ils ont leur propre institution. Donc ce sont des structures indépendantes. Comme vous diriez, vous avez l'Église catholique, vous avez l'Église. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Russie avec l'orthodoxie. Voilà, il y a un schisme aujourd'hui avec l'Ukraine. Et ben voilà, c'est-à-dire ils vont plus être affiliés maintenant à Moscou, l'Église orthodoxe de Moscou, puisque maintenant ils vont prendre une indépendance. Donc ils vont plus être affiliés. Ce sera un judaïsme orthodoxe indépendant.
Juste un point qui vous avez montré de manière très claire que à la fois l'émergence de la tradition orthodoxe, orthopraxe, se fait en Europe, avec les habits, etc., et puis la praxis. Également, le mouvement libéral se fait en Europe, en Allemagne, etc. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là du côté des séfarades.
Ah oui, oui, c'est intéressant, ça. Ben, le monde séfarade, en fait, il est resté très proche du monde oriental et du monde musulman. Et il y a eu des grands maîtres, il y a eu des maîtres qui interprétaient, il y avait des mystiques, mais c'est l'arrivée du colonialisme, on va dire, avec l'arrivée de la France, par exemple, en Afrique du Nord, qui a commencé à modifier les modes de pensée de la communauté juive, qui était restée très très traditionnelle, exactement en parallèle, on pourrait dire, avec le monde musulman. Voyez, c'est vrai que c'est l'Occident qui a apporté la technologie, par exemple, en Afrique du Nord, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a des Juifs qui ont dit, bah oui, on veut adhérer à ce projet pas colonialiste, mais ce projet occidental. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu des écoles qu'on appelait les écoles de l'Alliance. Je ne sais pas si on vous a parlé de l'Alliance. Voilà, l'Alliance a été créée justement par Adolphe Crémieux. Voilà, les écoles de l'Alliance avaient pour objet de créer des écoles dans le monde, ben justement dans les colonies françaises, pour apporter la culture française. Donc on apprenait à parler le français. Hein, voilà. Et certains juifs qui ont rompu avec les traditions et se sont occidentalisés. Et on voit par exemple les photos du début du XXe siècle où le grand-père apporte une djellaba et la chachilla, etc. Et pas à l'ancienne. Et puis vous avez le fils qui porte le costume, cravate. D'ailleurs, vous voyez ça dans la bande dessinée Le Chat du Rabbin. C'est Le Chat du Rabbin. Où vous avez le vieux rabbin du Maroc, n'est-ce pas? Voilà, à l'ancienne. Et puis voilà arrive le jeune rabbin. tout frais moulu, voilà, un costume, cravate, et qu'est-ce qu'il vient faire celui-là? Vous êtes rabbin, vous n'avez pas la barbe, vous n'avez pas le... Voilà. L'habit ne fait pas le rabbi, mais quand même, pendant longtemps, on aurait cru que ça... Donc, ça s'est passé comme ça, par l'influence de la culture occidentale. Aujourd'hui, la communauté libérale est majoritairement séfarade, parce que... Après la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive ashkénaze était moribonde, hein, bien sûr. Donc, notre président, par exemple, la communauté séfarade, moi-même je suis séfarade, un des officiants est séfarade, mais ça reste quand même une communauté relativement ashkénaze, peut-être 60-40, si vous plaît.
Les actions montent. Hein.
Ça se fait. Voilà. Alors il y a un juif qui arrive pour la première fois, c'est une histoire juive. Il y a un juif qui arrive pour la première fois à Jérusalem, alors il voit un chauffeur taxi, il dit « Chauffeur, vous pouvez m'amener au mur, vous savez où tout le monde prie et se lamente du matin jusqu'au soir ?»« Ah oui, je connais », lui dit le chauffeur. Il l'amène à l'hôtel des impôts. Voilà, on terminera sur, ça s'appelle l'humour des lamentations.
C'est ça. Merci beaucoup.